Bon réveil si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 28 septembre 2016, voici le journal d'Amélie Perrier, bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La mort de Shimon Peres, cette nuit nous consacrerons un grand chapitre de ce journal à l'homme politique israélien, ancien ministre, président et prix Nobel de la paix. Nous irons d'abord à Jérusalem qui se réveille orpheline d'une figure devenue consensuelle.
Mais une figure qui a divisé par le passé, nous retracerons le parcours politique de Shimon Peres, l'homme de la sécurité devenu bâtisseur de paix infatigable, comme l'a qualifié ce matin Manuel Valls.
Dans ce journal également, vous entendrez un témoignage rare d'un habitant d'Alep en Syrie. Après les bombardements du régime, l'offensive terrestre dans les quartiers rebelles où la population peine à survivre.
En France, des attaques tous azimuts contre Nicolas Sarkozy, entre la publication de son ancien conseiller Patrick Buisson et les révélations de Mediapart, la campagne pour la primaire est semée d'embûches pour l'ex-président.
Et nous verrons à quel point la présentation du budget 2017, le dernier du quinquennat, est autant économique que politique à quelques mois de la présidentielle.
What we are doing today is more than signing an agreement. It is a revolution. Yesterday, a dream. Today, a commitment. The Israeli and the Palestinian peoples who fought each other for almost a century have agreed to move decisively on the path of dialogue, understanding and cooperation.
La voix de Shimon Peres, le 13 septembre 1993, entouré de Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, lors de la signature des accords de paix avec les Palestiniens. Plus qu'un accord, dit-il en anglais, c'est une révolution. Hier un rêve, aujourd'hui un engagement. Les Israéliens et les Palestiniens qui se sont battus pendant presque un siècle s'entendent aujourd'hui pour marcher sur le chemin du dialogue, de la compréhension et de la coopération. Israël attendait la nouvelle fébrile depuis plusieurs jours. Shimon Peres est mort donc cette nuit. À l'âge de 93 ans, à l'hôpital près de Tel Aviv, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Une carrière politique qui a traversé toute l'histoire de l'État hébreu. Un prix Nobel de la paix en 94, on va y revenir. Mais direction d'abord Jérusalem avec Daniel Tabor, bonjour.
Bonjour.
Jérusalem où les Israéliens saluent la mémoire de Shimon Peres ce matin.
Oui, on peut le dire, Israël est en deuil et dès hier soir, de nombreuses personnalités s'étaient rendues à l'hôpital Echilov pour faire leurs adieux à Shimon Peres, dont le nom est associé à la naissance même de l'État d'Israël. Les hommages affluent du monde entier et en Israël même, bien entendu, tous les médias consacrent des émissions spéciales à la vie et à l'œuvre de ce dernier géant de la politique israélienne. Dans une heure environ, le gouvernement tiendra une réunion extraordinaire, une réunion de deuil. Demain, le cercueil de l'ancien président sera exposé sur l'esplanade de la Knesset pour permettre aux Israéliens de lui rendre un dernier hommage. Des obsèques nationales se dérouleront vendredi. D'ores et déjà, les responsables sécuritaires et les diverses administrations mettent en place les mesures qui s'imposent pour le déroulement de ces funérailles d'une grande ampleur. Le président Obama et de nombreuses autres personnalités étrangères ont annoncé leur arrivée. Shimon Peres sera inhumé au cimetière du Mont Herzl vendredi à Jérusalem.
Merci beaucoup Daniel Tabor en direct ce matin de Jérusalem pour France Culture. L'émotion, on vient de l'entendre après l'annonce de la mort de Shimon Peres. Il restera comme l'un des acteurs des accords d'Oslo avec les Palestiniens en 93. Il recevra pour cela le prix Nobel de la paix l'année suivante avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Un faucon devenu colombe, c'est son portrait, un grand format de notre correspondant Étienne Monin.
Dans sa première vie, Shimon Peres est d'abord le bouclier d'Israël. Il a 29 ans, il est le protégé du père fondateur David Ben-Gourion. Il est directeur général du ministère de la Défense. Il fait d'Israël une puissance militaire et nucléaire grâce au réseau qu'il tisse en France dans les années 50. Michel Bar-Zohar, ancien député travailliste, auteur du livre « Shimon Peres et l'histoire secrète d'Israël ».
Shimon était, disons, jusqu'en 1977... Il était monsieur sécurité, monsieur défense.
Shimon Peres est un visionnaire, mais c'est aussi le mal-aimé de la politique israélienne. Il est entouré d'adversaires, y compris dans son camp, le parti travailliste. Colette Avital était proche de lui à l'époque où elle travaillait pour l'ambassade d'Israël à Paris.
Pendant très longtemps, je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes dans son propre parti, et pas seulement dans son propre parti, mais aussi et surtout dans le Likoud, qui ont fait de lui une image de quelqu'un auquel on ne pouvait pas faire confiance. Et je crois que ça aussi, ça a été un poids très lourd pour lui.
Shimon Peres est aussi le grand perdant des élections contre Yitzhak Rabin pour la tête du parti, contre presque tous ses adversaires lors des législatives. Boaz Bismuth est grand reporter, éditorialiste à Israël Hayom, journal proche de l'actuel Premier ministre.
Shimon Peres est l'homme qui ne s'est pas gagné. Shimon Peres était un gagnant, et c'était un petit peu la blague de ce pays. Shimon Peres a gagné tous les sondages. Mais dès qu'il y avait élection, il est perdu.
Sur la pelouse de la Maison Blanche en 1993 pour la signature des accords d'Oslo, Shimon Peres est dans sa seconde vie. Il est devenu l'homme de la paix. Il amorce ce virage dans les années 80 sous l'influence de l'international socialiste et par sens politique, estime Yossi Bellin, ancien directeur du ministère des Affaires étrangères, explorateur de la filière d'Oslo.
I believe that he became more moderate.
Je pense qu'il est devenu plus modéré et en fait plus socialiste après avoir pris la tête du Parti travailliste. Comme chef de l'opposition, c'était beaucoup plus difficile pour lui de rester un faucon face à Menachem Begin. Ce n'était pas compatible d'avoir deux faucons. C'est la position dans laquelle il était qui l'a contraint à penser différemment.
What we are doing today is more than signing an agreement, it is a revolution.
Homme de paix, Shimon Peres trouve sa véritable stature sur la fin de sa carrière, à 84 ans. Au forceps, il devient président de l'État d'Israël, enfin populaire.
D'un coup, il est devenu l'homme du consensus, l'homme auquel on faisait confiance, l'homme sage, le père de la nation. Tant de personnes aujourd'hui l'aiment en Israël.
Dans sa part d'héritage, Israël garde aujourd'hui la puissance militaire et la haute technologie. Shimon Peres n'aura pas réussi à imposer la paix. Devant le Congrès américain en juillet 2014, il disait y croire encore. C'était juste avant la guerre contre Gaza qu'il a soutenu.
Voilà le grand format d'Étienne Monin, correspondant à France Culture, de France Culture à Jérusalem. Et les premières réactions à l'étranger soulignent à l'unisson les efforts de Shimon Peres pour la paix. Le président américain Barack Obama a salué la mémoire de son ami Shimon. Il n'a jamais renoncé à la possibilité de la paix avec les Palestiniens et les puissances voisines. À Paris, François Hollande a rendu hommage à un ami également fidèle de la France et l'un des plus ardents défenseurs de la paix.
Suite du journal sur France Culture, Amélie Perrier, on reste dans la région où la paix est un lointain souvenir pour les Syriens.
Et oui, après des jours de bombardements aériens, l'armée de Bachar al-Assad a lancé une offensive terrestre sur les quartiers rebelles d'Alep, la seconde ville de Syrie réduite à l'état de ruine. La population, entre les bombes, les pénuries de nourriture et de médicaments, tente de survivre dans cet enfer. Nous vous proposons ce matin d'entendre un témoignage rare, celui d'un habitant d'Alep, Mohamed, à 22 ans. Il vit dans la partie assiégée, là où les combats sont les plus violents.
Vivre à Alep, c'est chaque jour attendre la mort. Vous ne faites qu'attendre. Vous entendez les avions arriver et vous vous dites, c'est maintenant. C'est à mon tour. Je vais mourir à chaque frappe. Nulle part vous n'êtes en sécurité. C'est très difficile de vivre ici à Alep. Il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez vous mettre à l'abri, même pas dans les abris sous terre. Ces derniers jours, ils ont utilisé des nouveaux missiles qui peuvent creuser très en profondeur. On est attaqué de toutes parts. Ça fait 4 ans qu'on vit comme ça. On était des révolutionnaires syriens et c'est pour ça qu'on a appris beaucoup de choses sur la révolution française. On sait combien les Français ont donné pour conquérir leur liberté. Nous, on a fait pareil. Mais maintenant, on est attaqué de toutes parts, par n'importe quel type d'arme. Tout ça parce qu'on s'est battu pour notre liberté. Moi, je demande aux Français et à n'importe qui d'ailleurs de nous aider, manifester, mettez la pression. Contre les frappes de Bachar al-Assad, contre les frappes russes, pour empêcher cet holocauste.
Voilà le témoignage de Mohamed, un habitant d'Alep en Syrie, recueilli par Gaël Joly. La guerre en Syrie depuis 5 ans et demi a tué au moins 300 000 personnes et poussé des millions de Syriens à l'exil. Pour la plupart dans les pays limitrophes comme la Jordanie, le royaume accueille 600 000 réfugiés selon l'ONU, 1,5 million selon Amman. La Banque mondiale vient justement d'annoncer le déblocage de 300 millions de dollars de prêts pour faciliter l'accès des Syriens au marché du travail jordanien. La Banque mondiale, dont le président est reconduit malgré un bilan très contesté, l'Américain Jim Yong Kim, sud-coréen d'origine, était le seul candidat en lice, choisi il y a 4 ans par l'administration Obama. Il conserve les rênes de la Banque mondiale. Parmi les missions de la BM, le financement de projets dans les pays pauvres comme l'assainissement d'eau ou le développement des infrastructures. L'économie mondiale chahutée ces derniers mois en partie à cause de la baisse brutale des prix du pétrole. Les pays de l'OPEP sont justement réunis en ce moment en Algérie pour tenter de se mettre d'accord sur un gel des niveaux de production, seul moyen de faire remonter les cours. Mais aux enjeux économiques se mêlent les différents géopolitiques, comme entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Un accord paraît aujourd'hui improbable, comme nous le raconte à Alger Laïla Berato.
C'était l'objectif affiché d'Alger, parvenir à un accord sur le gel de la production du pétrole et permettre au prix du baril de remonter. Mais l'espoir n'a pas duré très longtemps. Avant même le début de la réunion, le ministre iranien du pétrole a affirmé qu'un accord n'était pas à son agenda. Quelques heures plus tard, le ministre de l'énergie des Émirats Arabes Unis, Souhaïl Mohamed El Mazrouï, lui répond.
Nous avons besoin que l'Iran nous rejoigne et nous attendons tous une réaction positive. Si nous nous mettions tous d'accord pour un gel, ce serait une bonne nouvelle. Si tout le monde souhaite un accord, nous le soutiendrons.
Le ministre irakien du pétrole, Jabar Ali Hussein El-Louébi, veut lui aussi être optimiste.
Nous avons enregistré des signaux très positifs des marchés américains ces 3 dernières semaines. Les fluctuations des prix ont diminué. Les opinions des membres de l'OPEP et non-OPEP commencent à connaître des convergences.
Mais les intérêts géopolitiques et économiques des membres de l'OPEP semblent encore trop divergents. Dans la soirée, les représentants de la Russie et de l'Arabie Saoudite ont annoncé à la presse qu'un accord serait impossible en 48 heures.
8h12 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier, un journal très politique en France avec des attaques tous azimuts contre Nicolas Sarkozy.
Attaque d'abord de son ancien plus proche conseiller Patrick Buisson dans un ouvrage à paraître demain, La cause du peuple, mais dont les bonnes feuilles sont déjà publiées. Portrait au vitriol, Buisson décrit Nicolas Sarkozy comme un traîneur de la politique et raconte par exemple comment il a laissé, je cite, des bandes de blacks et de beurre agresser des jeunes blancs anti-CPE aux Invalides pour ensuite reprendre la main face à son rival Dominique de Villepin. Des manœuvres dignes des séries House of Cards ou Baron Noir. Attaque aussi du côté de Mediapart, le site d'info publie le contenu du carnet d'un haut dignitaire libyen du régime de Muammar Kadhafi. Des virements d'au moins 6,5 millions d'euros auraient été versés à Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle en 2007. Et si l'on ajoute à cela les gardes à vue de Bernard Squarcini et de Christian Flech, les anciens patrons du renseignement intérieur et de la police judiciaire proches de Nicolas Sarkozy, cela fait beaucoup, Ludovic Piétonu.
C'est Chirac qui avait l'habitude de dire que les emmerdes volaient toujours en escadrille. Nicolas Sarkozy a lui aussi l'habitude du pouvoir, il le sait bien. Un malheur n'arrive jamais seul, surtout dans une campagne où tous les coups sont permis. Ce livre de l'ex-conseiller fidèle Patrick Buisson ne sort pas innocemment. Buisson est désormais plus proche de Zemmour et de De Villiers et trouve Sarkozy pas assez à droite. Il le dira ce soir sur le plateau du 20h de France 2 en distillant quelques petites phrases et confessions de son ancien patron à l'Élysée. France 2 qui demain soir, jeudi, diffusera son enquête sur Big Malion avec pour la première fois l'interview de l'un des organisateurs des meetings de Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2012 et ses accusations de surfacturation. Mediapart de son côté apportait hier des précisions sur la campagne électorale précédente, celle de 2007, avec les soupçons de financement de l'équipe Sarkozy par la dictature libyenne de Muammar Kadhafi. Sans parler de deux proches, deux ex-grands policiers, Bernard Squarcini et Christian Flech, qui ont connu ces dernières heures la garde à vue pour les besoins d'une enquête sur un trafic d'influence. Le sort s'acharne sur et autour de Sarkozy, mais le candidat sollicité hier soir se refuse à tout commentaire. Il reste encore plus d'un mois et demi de campagne, primaire et d'autres coups peuvent encore arriver, en premier lieu de ses adversaires directs dans cette élection, avec toujours cette interrogation, taper sur l'adversaire n'est-il pas contre-productif ?
La présentation du budget 2017 ce matin au Conseil des ministres, dernière loi de finances du quinquennat, enjeu économique donc, mais bien sûr politique aussi. Il faut financer les nouvelles priorités du gouvernement, poursuivre les baisses d'impôts promises et passer sous la barre des 3% de déficit. La Cour des comptes a déjà prévenu, Bercy a fait ses calculs à partir de prévisions de croissance trop optimistes. À quelques mois de la présidentielle, rien d'étonnant, Stéphane Robert.
Un projet de loi de finances d'une année électorale ou d'une année présidentielle a ceci de particulier qu'il répond beaucoup plus à des préoccupations politiques qu'à des réalités économiques. Et ça pour une raison toute simple, nous explique le professeur de droit public à Sciences Po Lille, Michel Lascombe.
La loi de finances n'est pas une loi comme les autres, c'est une loi de prévision et d'autorisation, elle n'impose rien. On peut donc avoir des recettes inférieures à celles qui ont été prévues et les dépenses, on peut très bien ne pas respecter le plafond. Il n'y a pas d'obligation de respecter la loi de finances.
Pas d'obligation parce que c'est la loi de finances rectificative votée au mois de juillet qui lui donne une réalité économique. Et puis la loi de règlement qui, elle, intervient après coup, c'est-à-dire pour 2017 en 2018. Raison pour laquelle en 2016, on peut y mettre un certain nombre de promesses électorales comme l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires ou la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages modestes. Et ça, basé sur des prévisions très optimistes. Résultat, selon le président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, ce sont près de 10 milliards d'euros qui devraient être budgétés sans être financés, ce qui va encore une fois creuser le déficit.
Alors que la dette publique française va bientôt dépasser les 100% du PIB, que si jamais il y avait une hausse des taux d'intérêt, nous serions dans une situation mais dramatique, le devoir des gouvernements, année électorale ou pas année électorale, devrait être un devoir de rigueur et de sincérité budgétaire.
Mais avant les contingences économiques, il y a la réalité politique, à savoir dans quelques mois une élection présidentielle et tout un tas de prétendants pour prendre la place du président actuel.
Et le temps de ce mercredi, maussade au nord, ensoleillé au sud. Les minimales ce matin vont de 7 à 12 degrés. Cet après-midi, on prévoit 23 degrés à Saint-Malo et à Bayonne, 24 à Paris, 26 degrés à Lyon, 26 aussi à Perpignan et jusqu'à 29 pour Avignon.